Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Après la mort de Saül, le premier roi d'Israël sur les monts Gelboé, mort de Saül et son fils Jonathan et d'un autre fils encore, et donc et quelques temps après, David reçoit l'onction royale de manière publique, il l'avait reçue dans la famille auparavant, quelques temps auparavant, avant qu'il n'affronte Goliath, et donc il est reconnu roi à Hébron, c'est-à-dire par la tribu de Juda, celle du sud de la Palestine. Mais les autres tribus, celle de Benjamin est un petit peu entre les deux, mais les 10 autres tribus qui vont jusqu'au nord de la Palestine sont aux mains du fils de Saül, qui s'appelle Ish-Baal, et c'est surtout le général de cette armée qui s'appelle Abner qui rend Ish-Baal maître un petit peu de ces 10 tribus dans les temps qui suivent le désastre de Gelboé. Mais donc, il va falloir que les choses se mettent un petit peu en place. Donc, il y a un affrontement va avoir lieu. Et l'initiative va venir de Abner, dont le général en chef du Nord, qui de Mahanaïm veut se rendre à la frontière de Juda, au sud, pour se rendre maître de cette tribu rebelle, cette seule tribu qui est régie par David. Il arrive à Gabaon, avec la garde d'Ish-Baal, le roi, et Joab a dû apprendre cette manœuvre menaçante. Joab, c'est le général en chef de Juda, de David, et puisqu'il se met en marche de son côté avec la garde du roi David. Nous savons qu'Abner est le cousin de Saül, Joab, lui, est le neveu de David, puisque, comme Abishaï et Asaël, il a pour mère Seruya, la sœur de David. Précision. Ses 3 neveux l'ont probablement accompagné en sa vie de fugitif et de rançonneur jusqu'à la mort de Saül, et la force de caractère de Joab, s'ajoutant à sa parenté avec David, l'a placé à la tête des troupes de son oncle. Les gardes des 2 rois s'immobilisent sur les 2 côtés du grand étang de Gabaon, situé à une 10aine de kilomètres au nord de Jérusalem. Abner propose de limiter le combat à quelques jeunes, des cadets, comme on traduit habituellement, les jeunes. Le principe de la joute est accepté et 12 jeunes guerriers sont désignés de part et d'autre. L'affrontement est si généreux et si puissant que les combats se neutralisent mutuellement. Chacun saisit son adversaire par la tête et lui enfonça son épée dans le flanc, en sorte qu'ils tombèrent tous ensemble. C'est pourquoi on a appelé cet endroit le champ des flancs. Des flancs. Et de donc neutraliser les 12 et 12, terminer, de trucider les uns par les autres ensemble. Se reproduit donc un peu élargi le combat singulier de David et de Goliath, ou plus exactement celui des 3 Horace et des 3 Curias, représentant Orhom et Albe. Et comme ceci a déjà été évoqué autrefois entre nous, chers auditeurs de Radio Présence. Comment ne pas évoquer, et bien aussi de la Bretagne où j'ai vécu longtemps, le combat des 30. Et on est en effet dans cet épisode au XIVe siècle, en pleine guerre de succession pour le duché de Bretagne, et à la mort du duc Jean III, sa nièce Jeanne de Penthièvre, c'est près du monastère de Kergonan où j'étais, femme de Charles de Blois, que soutiennent les Français, et son frère Jean de Montfort, allié des Anglais, se disputent la Bretagne. Le château de Josselin est du côté des premiers, gardé par le capitaine Jean de Beaumanoir, tandis que l'Anglais Benborough tient Ploermel. Entre les 2 camps, les escarmouches sont fréquentes et ravagent le pays. Les 2 chefs conviennent d'un combat qui opposera 30 chevaliers de chaque partie. C'est à pied que l'on se battra, usant de l'épée, de la dague, de la hache et de l'épieu. Après avoir communié et prié toute la nuit dans l'église Notre-Dame du Roncier, vénérée à Josselin, Beaumanoir et les siens se rendent au lieu de la rencontre au matin du 27 mars 1351. Il s'agit de la lande de Mi-Voie, entre Josselin et Ploermel. Le camp adverse compte 20 Anglais, 6 Allemands et 4 Bretons. La journée se déroule en corps à corps acharné, avec la vigueur des 24 cadets de Juda et d'Israël, jusqu'à complet épuisement des combattants. Jocelyn est vainqueur, le capitaine anglais est tué avec 8 des siens, les autres sont faits prisonniers. Au cours de la lutte reste fameuse sous le nom de combat des 30, le chef breton blessé demande à boire. « Bois ton sang, beau manoir », lui répond un de ses rudes compagnons, « la soif te passera ». C'est rude, toutes ces histoires-là, l'histoire de Saül, de David, c'est pas fini que nous le verrons. Et c'est donc le parti de Charles de Blois qui triomphe à la mi-voie. La destinée de ce prince, Valois, n'a pas toujours été aussi heureuse, et un arrêt du Parlement de Paris rendu à Conflans en 1641 lui attribuait bien le duché de Bretagne, à lui et à son épouse Jeanne de Penthièvre. Mais l'épouse de son rival, Jean de Montfort, la fameuse Jeanne de Flandre, nommée Jeanne la Flamme, ne l'entendait pas ainsi, même quand son époux était prisonnier des Français à Nantes. Assiégée dans Hennebon par Charles en 1342, elle fut dégagée par les Anglais. Et malgré la trêve de Malétroit en 1343, la guerre des deux dames, les deux Jeannes, comme on les appelle, se poursuivit avec des aléas divers, tels le combat des Trente. Pourtant, Charles de Blois n'était guère par nature d'humeur batailleuse. Dévot de Saint-Yves, il avait aspiré à vivre en fer mineur. Prisonnier en Angleterre de longues années, il fut vaincu avec Du Guesclin, voyez, à la bataille dorée. Du Guesclin que j'ai retrouvé à Mende, où il est mort, et il est mort après avoir bu une boisson un peu trop froide. Mais il fut canonisé en 1376 par Grégoire XI en Avignon, ce que confirma Saint Pie X le 14 décembre de 1904. Par où l'on voit que l'engagement dans les batailles ou les affaires des États n'est pas incompatible avec la sainteté. L'histoire de David le montre bien, comme bien plus tard celle de Saint-Louis. Alors, autant que la Palestine, la Bretagne a été arrosée par le sang, surtout en des guerres civiles, où les Français et les Anglais s'affrontent en prêtant main forte à telle ou telle partie. Et ainsi va l'histoire, mais nous savons bien qu'actuellement, dans notre monde marqué par la pandémie, là aussi, les Daesh et d'autres factions continuent à faire des histoires de sang terribles et dont nous ne sommes jamais pas épargnés les uns et les autres. Donc faisons confiance au Seigneur.